En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Séance ouverte avec Hélène Carrère d'Encausse, que vous avez vu arriver tout à l'heure. Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et ceci depuis 1999, 20 ans l'année prochaine. Merveilleux. Voilà un vrai secrétaire perpétuel, si je puis dire. Et, chère Hélène, naturellement, nous allons parler de la France et de la Russie. Ce sont les deux parties de votre cœur, d'une certaine
poumons.
Façon. Voilà, vos deux poumons. Je me rappelle que pour mémoire, que vous avez eu une carrière universitaire, politique et celle d'historienne, et notamment d'historienne de la Russie et des grands héros de la Russie, qu'il s'agisse de Catherine II, de Nicolas II, de l'Empire russe lui-même. Alors nous allons parler des relations entre la France et la Russie. L'année dernière, nous avions fait, grâce à vous, un portrait historique merveilleux de Poutine que vous aviez replacé dans, je dirais, l'âme russe. Je voudrais demander toutefois, entre deux virgules, aux personnes qui se trouvent dans des encastrements de portes, etc., de voir avec notre ami Aziz s'il ne peut pas organiser des choses pour que vous puissiez vous asseoir, parce que tout de même, nous sommes là pour une heure. C'est un peu préoccupant de vous voir debout comme ça. Il peut y avoir encore des chaises libres. Voilà. Madame qui venait de Strasbourg. Et donc, nous allons entrer aujourd'hui dans la relation franco-russe. L'année dernière, vous vous rappelez de cette image tout à fait spectaculaire du président de la République, Emmanuel Macron, à peine installé à l'Élysée, recevoir dans les galeries de Versailles Vladimir Poutine. Il le recevait dans les galeries de Versailles. Pour quelle raison? Parce que c'était le troisième centenaire de l'établissement des relations franco-russes. La bizarrerie de cet établissement, et c'est évidemment la première question que je voulais poser à Hélène Carrère d'Encausse, c'est que ça n'est pas dû à Louis XIV. 1717, nous sommes sous la régence. Et en effet, grâce à ce tricentenaire, on va apprendre que Louis XIV, ce qui nous paraît tout à fait extravagant aujourd'hui, mais Louis XIV préférait une alliance suédoise à une alliance russe. De sorte qu'il avait refusé à plusieurs reprises à Pierre le Grand de venir en France. Alors tout ça, chère Hélène, je l'ai appris grâce à vous, et évidemment c'est à vous que je vais laisser le soin de raconter le début et le développement de ces relations entre la France et la Russie, puis ensuite nous allons venir à l'époque, sinon moderne, tout au moins contemporaine, c'est-à-dire à ce qui a précédé et suivi le général de Gaulle.
Merci beaucoup. Bon, je voudrais dire d'emblée que la relation franco-russe est une relation tout à fait exceptionnelle par rapport à d'autres relations entre État et société, parce qu'elle est véritablement faite à la fois d'une passion extraordinaire des uns pour les autres, d'un amour, et puis d'une sorte de crainte, par moments de répulsion, c'est-à-dire que c'est une relation cyclique, mais au fond de laquelle se trouve, je crois, une très profonde communauté spirituelle. Alors, elle a été compliquée. D'abord, pour une raison, c'est qu'elle est tardive. Elle a été tardive parce que, bon, si on compare à l'Angleterre, par exemple, les Anglais étaient commerçants et voyageurs. Et étant commerçants et voyageurs, tout le monde, enfin, on savait dès le XVIe siècle, dès le XVe siècle, que dans cette lointaine, ce qui s'appelait la Moscovie, et pas la Russie, dans cette lointaine Moscovie, il y avait des richesses extraordinaires, des richesses naturelles, c'était un pays mystérieux, mais dont on savait à la fois la puissance potentielle. Et les commerçants anglais sont allés très tôt en Russie. Enfin, il y a eu une curiosité pour ce pays que les Français ont connue plus tardivement, peut-être parce qu'ils sont plus intellectuels et qu'ils se sont prêtés à écouter ce qu'ils entendaient de ce pays. Et ce qu'ils entendaient de ce pays, c'était des récits de voyageurs. D'abord, les Français, dans le passé, lisaient plutôt le français que les récits de voyageurs dans d'autres langues. Et les récits de voyageurs français étaient terrifiants. Ils décrivaient les uns comme les autres, un pays barbare, sauvage. Ceux qui se sont avancés, il n'y en avait pas tellement, faisaient des récits, véritablement, d'un pays extrêmement étranger à ce qu'était notre civilisation et qui, du même coup, je dirais, n'incitait pas les Français à y aller. En plus, je veux dire, l'incitation économique n'était pas là. Et ça n'empêche pas que certains voyageurs le sentaient mieux que d'autres, notamment des religieux. Mais ils n'étaient, je dirais, malgré tout, ils étaient hantés par l'idée que c'était un monde de barbarie. Et il faut tout de même se souvenir que la France, dès le XVIe siècle, a le sentiment d'être la grande puissance européenne, la puissance civilisée de l'Europe. Ça, c'est très important. Et par conséquent, cette puissance civilisée, elle est obsédée par deux idées. La première, garder son statut et ne pas se commettre avec n'importe qui. Se commettre avec les Russes, c'était manifestement une déchéance dans l'esprit des Français. La seconde préoccupation, et ça, je dirais, vous avez évoqué Louis XIV, je vais y venir, mais elle vient assez tôt. La seconde préoccupation, c'est que la France considère que c'est elle, dès le XVIe siècle, qui dit d'une certaine façon ce qu'est l'ordre. Madame Bréchignac, mon amie, a très justement évoqué l'importance de l'ordre. Eh bien, il y avait un ordre européen. Et pour les Français, l'ordre européen, c'était eux. C'était eux qui définissaient ce qu'était l'ordre des relations, de la puissance, etc. Et du même coup, ils entendaient que cet ordre reste relativement stable. Cette espèce de Moscovie étrange dont on ne savait pas grand-chose, puis qui allait très loin, l'immensité du territoire mal connu que des voyageurs avaient exploré, mais on ne connaissait pas les limites pour une bonne raison, c'est que ce territoire au XVIe siècle, il était limité, au fond, l'histoire russe, telle que les Occidentaux la connaissent, elle commence avec la fin de la domination mongole, c'est-à-dire avec la prise de Kazan par Ivan le Terrible. C'est tardif, ça. Et juste après, cet état de Moscovie commence à s'agrandir. Au XVIe siècle, des marchands de fourrures russes vont s'avancer vers la Sibérie, c'est-à-dire que c'est un espace qui ne cesse de changer et qui est d'autant plus inquiétant qu'on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. Quel est cet espace? De quoi s'agit-il? Ça reste véritablement une sorte de menace inconnue dans la conception française de l'ordre. Un souverain, néanmoins, avait senti que la Russie était importante. C'est Henri IV, très curieusement. Henri IV et son ministre Sully avaient imaginé qu'il faudrait se tourner vers la Russie. Il y a un texte de Sully. Et ils ont dit, ce pays existe, il faut traiter avec lui. Henri IV a été tué, c'est tombé dans l'oubli, et on peut dire qu'on continue comme ça, en effet, jusqu'à Louis XIV. Alors, quand Louis XIV, la situation change un petit peu, c'est-à-dire ça n'est plus, au temps de Louis XIV, l'idée que la Russie est quelque chose de bizarre et de barbare, s'ajoute à ce mépris, à ce sentiment de supériorité, une inquiétude. L'inquiétude monte parce que, pour le pays, la Russie grandit. Cette Russie qui vend le terrible, a remis sur pied, a arraché à la domination étrangère, devient une véritable grande puissance. Et pour la France, la question va se poser, comment faire pour que cette puissance, je dirais, ne jette pas une ombre sur la puissance française, qu'elle ne modifie pas l'ordre que la France prétend incarner et organisée, et dont elle se sent la garante. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on comprend rarement. C'est une obsession, empêcher que la Russie joue un rôle en Europe. D'où l'intérêt formidable pour les pays voisins de la Russie. Il y en a trois qui sont des puissances à cette époque-là. Premier pays, c'est la Suède, pays militairement extraordinairement puissant. La Pologne, le royaume de Pologne-Lituanie, qui a été une grande puissance. C'est lié, je veux dire, on n'a pas le temps, mais c'est lié à la question ukrainienne aujourd'hui. Les Ukrainiens, ce sont, qui en ont eu assez d'être dominés par le royaume de Pologne-Lituanie, se sont sauvés juste avant Pierre le Grand, sous le règne du père de Pierre le Grand, dans les bras de ce souverain, en disant maintenant, protégez-nous de ces dominateurs. Mais c'est une puissance formidable. Et troisième puissance, c'est l'Empire ottoman. Et la politique française est tout entière construite sous Louis XIV et Louis XV sur l'idée que, eh bien, il faut fraterniser, si j'ose dire, encourager les trois voisins de la Russie à l'enserrer de leur affection et à l'empêcher d'émerger sur le territoire européen. Alors, de leur côté, les Russes sentaient cela. Et bon, il y a une curiosité en Russie pour la France. Et avant, Pierre le Grand, son père, le second tsar de Russie, le second souverain, ce souverain a été, on le représente toujours en vêtements quasiment traditionnels russes, avec un caftan, enfin, avec un bonnet de fourrure. Il était très religieux. Je voudrais rappeler, c'est aussi un élément qui joue un rôle considérable, que en Russie, le premier souverain Romanov, qui était le grand-père de Pierre le Grand, le premier souverain Romanov, était le fils de celui qui était patriarche, et que le pouvoir s'est partagé entre pouvoir religieux et, je dirais d'une certaine façon, entre l'autorité du patriarche et celle du souverain. Mais la religion de la Russie, c'est la religion orthodoxe empruntée à Byzance, et d'une certaine façon, le facteur religieux s'ajoute aussi pour opposer la France et la Russie. La Russie c'est déjà l'idée de la troisième Rome qui grandit, et la Russie se veut face au monde catholique. Le monde catholique, la Pologne, c'est le monde catholique aussi. La Russie se veut le défenseur de ce christianisme dont Byzance est le symbole. Alors, le second souverain Romanov, le père de Pierre le Grand, a tout de même, il était à la fois profondément convaincu de l'importance nationale de son pays, du poids de son pays, convaincu aussi du poids de la religion. En même temps, il est passionné par le monde extérieur et son ambition. On dit toujours que Pierre le Grand a ouvert les portes de la Russie sur le monde occidental. Non, la fenêtre a été ouverte par son père. Quand son père monte sur le trône, il a une idée fixe, c'est que la Russie s'ouvre sur cette Europe qu'elle connaît mal, qui se méfie d'elle. Et une fois encore, elle se méfie d'elle parce que la France tient fermée les portes de l'Europe. Enfin, ça, il faut le savoir. C'est d'une certaine façon, dans le contentieux franco-russe, il y a ce lointain souvenir d'une France qui d'abord méprisait et qui, au XVIIe siècle, a déjà peur de cette Russie puissance croissante. Donc, le second Romanov décide de s'ouvrir vers l'Occident. Il envoie des étudiants dans le monde occidental. Il commence à faire venir des spécialistes. Il essaye d'établir des relations. Il envoie des émissaires en France. Le résultat n'est pas très très voyant, parce que sa puissance n'est pas encore telle, la puissance russe n'est pas établie face aux grands voisins, et du même coup, le roi de France considère qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de ses avances ou d'y prêter attention. Et puis arrive Pierre le Grand. Et alors Pierre le Grand, c'est ce qu'évoquait notre hôte très, très justement, quand Pierre le Grand monte sur le trône à la suite, tout le monde le sait, de tragédies épouvantables. Enfin, quand il affermit vaguement son trône, sa première obsession, c'est d'aller vers dans le monde extérieur. Et ce jeune souverain, dont le trône est menacé parce qu'il a une sœur qui guigne sa place, enfin, et il est entouré de complots, néanmoins, il part en 1794, à la fin, juste lorsqu'il est monté sur le trône, il part en Europe à la tête de ce qui s'appelle la Grande Ambassade, suivi par 300 personnes. Il se rend anonymement dans tous les pays européens. Il s'appelle Pierre Mikhailov, mais au fond, tout le monde sait qui est ce personnage de 2 mètres de haut, tout à fait étonnant, suivi de cette population de... Il emmène des étudiants, il emmène des spécialistes. Ce qu'il veut, c'est mettre toutes les forces vives de son pays au contact du monde européen pour obtenir de l'aide, pour se moderniser. Et c'est vrai qu'il a fait la tournée de tous les pays européens, que les souverains l'ont accueilli, malgré son anonymat, avec une chaleur extraordinaire, et que la France est restée fermée. Alors, il y a eu tout un débat. En réalité, Louis XIV n'a jamais dit « je n'en veux pas » parce que Pierre le Grand a compris, on lui a fait comprendre qu'il ne serait pas le bienvenu. Donc, si vous voulez, heureusement, nous pouvons nous dire qu'on ne l'a pas chassé. Enfin, ça revient au même. On lui a dit que ce n'était pas sa place. Et je dois dire qu'il n'y a pas eu l'ombre de curiosité française pour ce Pierre Mikhailov. La conséquence de cela, c'est qu'il a couru la Hollande, il a couru l'Allemagne, partout il a récupéré des techniciens, des gens qui savaient, bon, il voulait construire une marine, ceux qui construisaient des bateaux, il a pris des scientifiques, il était passionné de science toute sa vie, il a adoré la science, il invite partout des étrangers. Pour lui, la France reste encore fermée. Et c'est extrêmement regrettable. Et c'est en cela que le voyage de Pierre le Grand en 1717 a été miraculeux, parce que, entre-temps, alors, on a essayé évidemment de fermer la porte autant que possible à cette Russie, et on lui a suscité des ennuis avec tous les voisins. Ça n'a pas empêché Pierre le Grand de défaire la Suède. Ça a été la grande victoire. D'une certaine façon, de calmer la Pologne, ça sera fait après par son successeur Catherine la Grande, mais enfin, les Polonais sont tout de même, affaiblis entre autres par le départ d'une partie des Ukrainiens, l'Ukraine orientale, qui a été emmenée sous l'autorité russe, et ça affaiblit le royaume de Pologne-Lituanie. L'échec de Pierre le Grand, bon, il réussit, je dirais, face à l'Empire ottoman à remporter des victoires, mais néanmoins le grand échec de Pierre le Grand est qu'il ne réussit pas à s'implanter en mer Noire. Or, la Russie est un pays qui n'a pas accès aux mers libres. Les victoires sur les Suédois lui donnent tout de même accès aux mers du Nord. Sur la mer Noire, le Grand ne réussit pas. On y reviendra, c'est Catherine II qui réussit ça. Mais la conséquence de ça, c'est que tout de même Pierre le Grand, quand il décide d'établir véritablement, quand il devient le grand souverain, le régent a pensé qu'il était grand temps de faire quelque chose. Ça, c'était l'évidence. Il s'est rendu en France. On connaît tous le petit Louis XV qu'il soulève avec attendrissement. Bon, ça s'est passé, ça a été la grande réconciliation, c'est vrai. Et ça a été extrêmement important parce qu'on a d'une certaine façon, on a rattrapé quelque chose que l'on avait perdu dans ce voyage manqué de 1694, c'est-à-dire le lien entre les deux pays du point de vue du savoir, de toutes les connaissances. Pierre le Grand, qui était passionné, une fois encore, de science, s'est rendu et au muséum, et il a rencontré tous les savants français. Il s'est véritablement informé de l'état des connaissances en France. Outre les satisfactions politiques, c'était le contact intellectuel qui était établi. Et à cet égard, je dirais que la méconnaissance passée était dominée. Pour autant, la question n'est pas réglée. Pour autant, la France reste méfiante de ce pays, et la fille de Pierre le Grand, après Pierre le Grand, il y a eu des successions extrêmement compliquées en Russie, et ce n'est que lorsque sa fille Élisabeth monte sur le trône que les effets du voyage de Pierre le Grand se font sentir, en ce sens qu'Élisabeth est profondément amoureuse de la France et elle importe en Russie, à la cour de Russie, la langue, les modes françaises. C'était une souveraine intelligente, mais un petit peu paresseuse et futile, c'est-à-dire qu'elle a importé un petit peu la surface des choses. Néanmoins, il y a une image de la France qui pénètre. Ça n'est plus seulement le voyage de Pierre le Grand, c'est d'une certaine façon l'image de ce pays, la manière dont on vit en France, et ça établit un contact humain. Mais la véritable percée après Pierre le Grand, c'est avec Catherine II qu'elle s'opère.
C'est ça, voilà. Donc, on va venir sur Catherine II, puis il y a l'interruption impériale, si je puis dire, de notre côté, et ça ne reprendra vraiment qu'un siècle après Catherine II.
Absolument. Mais sous Catherine II, si vous voulez, là aussi, ce qui est très extraordinaire, Catherine II, c'est le règne de Louis XV,
ouais.
Et je dois dire que sous le règne de Louis XV, nous sommes, d'une certaine façon, au sommet de cette volonté française de... On traite avec la Russie, mais elle n'a pas la... Il faut qu'elle sache son rang. Elle n'est pas du même rang que la France. Et ça se traduit d'ailleurs par des vexations comiques, puisque la diplomatie française refuse de reconnaître à Catherine II le titre d'impératrice. On finira par lui reconnaître ça en latin, ce qui est tout de même assez comique, de façon à, je dirais, à ce qu'elle ne se situe pas comme le roi qui est roi de France. De la même façon, dans le protocole des États que la France contrôle, la Russie se trouve très loin et elle n'arrive jamais à remonter. Bon, Catherine II, ça lui importe peu. Elle va se trouver aux prises avec... Vraiment, elle a résolu. Pierre le Grand avait résolu le problème suédois. Catherine va résoudre le problème des deux appuis de la politique française, la Pologne, puisqu'elle va porter sur le trône de Pologne Stanislas Poniatowski, qui était son ami, son amant, mais surtout qui était un homme extrêmement intelligent. Il y avait une compétition traditionnelle sur la succession au trône de Pologne. C'était un souverain électif et la France était habituée, au fond, à être la puissance qui réglait la question dynastique. Et bien là, Catherine II l'a emporté et elle disait triomphalement « Nous avons fait un roi en Pologne ». Ça a mal tourné d'ailleurs parce que le roi de Pologne a fini par considérer qu'il était polonais et pas seulement le roi de Catherine II. Mais ça vient plus tard. Mais néanmoins, si vous voulez, les relations polono-russes vont être améliorées par cette initiative. Et d'une certaine façon, la France est obligée de reconnaître qu'elle n'est plus seule à décider en Europe du sort de la Pologne. Il y a une sorte de partage qui s'opère. De la même façon, l'Empire ottoman, ça c'est là. Je dirais que c'est un des grands griefs que les Russes entretiennent à l'égard de la France. C'est-à-dire que le roi très chrétien, la fille aînée de l'Église, a soutenu un souverain mahométan, comme on disait à l'époque, contre un grand pays chrétien. C'est la vérité. Bon, et les Russes s'en souviennent jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, bon, et seulement Catherine II a la chance, évidemment, de réussir ce que Pierre le Grand n'avait pas réussi, c'est-à-dire grâce à la victoire de Tchesmé, emportée sur la flotte ottomane, de prendre pied en Crimée. Et prenant pied en Crimée, la Russie n'a plus quitté la Crimée, sauf un petit intervalle entre...
Oui, fictif.
Un très court intervalle, ça c'est dans l'histoire contemporaine. Mais prenant pied en Crimée, c'est-à-dire véritablement la zone la plus stratégique de la Méditerranée, elle réussit ce que Pierre le Grand n'avait pas réussi, cette pénétration véritablement. Vous savez, l'histoire des mers chaudes. Alors on a prêté à Pierre le Grand un testament apocryphe, c'est une plaisanterie. Il n'a pas fait de testament pour dire qu'il fallait aller vers les mers chaudes, mais toute la politique russe a été d'aller vers les mers chaudes. Et là, la Russie, elle énerve la France parce qu'elle prend de la puissance, mais d'un autre côté, elle fait plaisir aux Français parce qu'elle a un adversaire, c'est l'Angleterre, qui s'inquiète de la voir descendre vers les Indes. Donc, les relations franco-russes deviennent plus complexes parce que la puissance de Catherine II est à la fois gênante pour la prétention au monopole de l'organisation de l'Europe que, je dirais, sous Louis XV, on conserve, et en même temps, la montée de l'Angleterre du puissant empire britannique commence à voir cette ombre russe s'avancer vers l'empire des Indes, et pour la France, c'est aussi une satisfaction. Donc vous voyez que ça facilite des relations qui évoluent tout doucement.
Et bon. À la suite de cela, on va avoir cette malheureuse rupture tragique, etc., entre Napoléon et le tsar Alexandre. Et celle-ci, cette rupture-là, va avoir des conséquences pendant quasiment un siècle.
Oui, et c'est une, je dirais, c'est une rupture malheureuse pour la. Pour les relations franco-russes, oui. Pour la Russie et pour la France.
Eh oui.
Et le général de Gaulle disait, tout notre déclin, d'une certaine façon, date de l'époque où Napoléon est allé en Russie. Alors, ce que je voudrais dire à ce propos, d'ailleurs, c'est que, à ce moment-là, quand Napoléon s'avance en Russie, on est dans un tout autre contexte. Entre la Russie et la France, les relations sont totalement transformées. Enfin, il y a eu, d'abord, il y a des relations culturelles qui se sont développées, des relations diplomatiques. Là, il y a une vie internationale. La Russie fait partie du concert européen en dépit de tous les barrages qu'elle avait rencontrés. Donc, ça entraîne, je dirais, une attention de chacun des deux pays, des échanges constants. Le russe n'est pas très connu en France. En revanche, et on s'intéresse en France à la Russie, mais de loin encore, en revanche, en Russie, la langue française a pénétré. L'importance de la langue française, de la langue que Catherine Brechiak a évoquée tout à l'heure, pour les Russes, pour les élites russes, évidemment ce n'est pas le paysan dans sa campagne, mais les élites russes s'expriment en français, ça devient progressivement la langue de la cour. Il y a donc, si vous voulez, une attraction formidable vers la France. Je dirais, j'ai évoqué tout à l'heure la fille de Pierre le Grand, l'impératrice Elisabeth, elle avait lancé la mode française, elle avait lancé le français. Mais avec le règne de Catherine II, tout cela s'est épanoui. Catherine II, je voudrais le dire tout de même parce que c'est important, cette femme avait appris le français, elle avait une demoiselle qui lui parlait français, et elle avait toujours un livre français dans sa poche depuis l'âge de 10 ans, et tous ses textes, j'ai vu ça dans les archives, tous les textes administratifs que cette femme annotait, car contrairement au chef d'État, c'est leur premier ministre qui lit en général les textes, Catherine II lisait tout, c'était une grande travailleuse, et elle annotait tout en français, ce qui est tout de même absolument extraordinaire, et dans un très beau français. Donc si vous voulez, il y a véritablement un lien qui s'est instauré et qui est considérable. Et évidemment, la campagne de Napoléon a été une rupture. Alors là aussi, je voudrais dire qu'il y a ce qui est intéressant, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'opinion. Il y a deux points de vue opposés. Et on voit très bien la persistance des préjugés. En France, nous considérons que Napoléon n'a jamais été vaincu, qu'au fond, il a été vaincu par le général Hivert. Quand on regarde, et d'ailleurs, la campagne de Napoléon, et d'ailleurs, les historiens anglais racontent l'histoire tout à fait autrement que les historiens français, pour dire la vérité. Mais quand on regarde cette campagne, on voit ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Russes, l'empereur Alexandre Ier, mais c'est surtout ses généraux, Kutuzov et Suvorov, avaient étudié très attentivement la stratégie de Napoléon. Ils savaient comment il fonctionnait. Ils avaient compris plusieurs choses. D'abord que Napoléon était l'homme des combats courts, des campagnes courtes. Il fallait que le succès vienne tout de suite. C'était aussi l'homme du coup. C'était pas l'homme des campagnes de mouvement. Il avait une armée qui était faite pour se battre. Et il ne savait pas très bien, ou il n'avait pas pris conscience, et ils en étaient convaincus, de l'avantage que possédait la Russie, c'est-à-dire un espace immense. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la stratégie russe, et elle est clairement exposée d'ailleurs dans les écrits de l'époque, toute la stratégie russe a consisté à refuser le combat à Napoléon, à l'emmener jusqu'à Moscou. Les troupes de Napoléon couraient derrière l'ennemi, ils ne pouvaient jamais se battre avec lui. D'où une démoralisation extraordinaire des troupes. Et on les a emmenés comme ça, d'abord, la longueur des lignes des voies de communication. Là aussi, si vous voulez, les Russes savaient ce que... On a évoqué l'espace. Mais l'espace, c'est pas seulement quelque chose dont on prend conscience en regardant des cartes de géographie. C'est quelque chose qu'on vit. Les Russes savaient ce qu'était leur espace. Napoléon, ce n'est pas un homme des espaces. Il ne savait pas exactement combien c'était compliqué d'aller à des milliers de kilomètres. combien quand cet espace, dès que le temps vous deviendrait défavorable, était une tragédie. Donc ils avaient calculé leur affaire, je dirais, pour l'épuiser, le tuer dans cet espace. Et pas seulement ça, on lui a livré Moscou. C'est-à-dire, c'était les délices de Capoue. Les armées françaises ont trouvé Moscou désertée. Ils n'ont plus qu'à piller les caves, à vider tout ce qu'il y avait dans les caves. Je dirais se nourrir parfaitement, mais les faire battre après, c'était presque impossible. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une stratégie de la défaite dont les Russes sont extrêmement fiers. Alors, tout de point de vue pour les Russes, Napoléon n'a jamais été battu par personne, sauf par les Russes. Pour nous, il n'a jamais été battu par personne, sauf par le général Hiver, ce qui ne compte pas. Mais, je veux dire que ça paraît comique, mais dans l'imaginaire populaire, moi je me souviens que quand j'étais petite, qu'on m'apprenait l'histoire à l'école, et nous l'avons tous appris comme ça, Napoléon était invincible. Et au fond, on n'a jamais pensé que ces Russes, ces gens un peu bizarres, avaient pu le vaincre. Bon, malgré tout, la guerre avec Napoléon n'a pas ruiné cette relation qui s'était instaurée. Et elle s'est rétablie assez vite, tout simplement parce qu'il y a une curiosité de part et d'autre. Il y a une curiosité de part et d'autre, il y a des voyageurs qui vont, Madame de Staël, tout ça.
Il y a même les armées qui viennent à Paris aussi.
Non, ça c'était. Mais, oui, mais il y a aussi les élites. Et les Russes avaient, au fond, ils n'ont jamais détesté la France, d'ailleurs. Je dirais, il suffit d'aller regarder tout ce qui commémore les guerres napoléoniennes en Russie, la mémoire des guerres napoléoniennes, c'est magnifique. Ils ont beaucoup plus de... J'ai un plus grand respect pour le souvenir de Napoléon que nous. Ça, c'est la vérité aussi. Mais je dirais que les choses se rétablissent. Les émigrés qui sont... Parce que l'émigration va en Russie. Quelqu'un comme Madame de Staël fuit Napoléon en Russie. Rapporte de la Russie l'image d'un pays francophile, d'un pays accueillant. Donc, dès la Restauration, la France se rouvre à la Russie. Je veux dire que l'interruption, là, n'a pas été une interruption tragique. Et au contraire, ça va ouvrir la porte à une période extraordinaire de développement, de relations, vraiment de la compréhension. Alors là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. La France est un pays du livre, un pays intellectuel, et les Russes aussi. Ce sont les deux peuples pour qui l'écrit, pour qui les productions de l'esprit sont fondamentales. Et il est clair que la France va découvrir la littérature russe, va découvrir, je dirais, la peinture russe, c'est beaucoup plus tardif, mais la littérature va très tôt pénétrer en France. Les Russes sont pénétrés de littérature française depuis toujours, je dirais, ça fait partie de ce que presque de leur patrimoine génétique. Pas seulement la littérature du 19e arrivera tard, mais tout russe normalement constitué connaît Racine, connaît les fables de La Fontaine, ça fait partie de ce qui était l'éducation russe, parce que la langue française avait pénétré tellement tôt. Il y a eu, je dirais, une ombre dans ce développement des relations culturelles, et cette ombre est largement responsable de l'incompréhension franco-russe qui pèse sur nous jusqu'à présent. Cette ombre, c'est Custine.
Voilà, 1838.
Voilà.
Comment ça s'appelle ?
Le voyage en Russie en 1839.
Oui, voilà. Tout à fait, 39.
Le marquis de Custine, tout le monde le sait, il appartenait à une famille qui avait beaucoup souffert de la Révolution française, ce qui fait que pour Astolphe de Custine, l'image de la Russie, d'ailleurs, ça montre à quel point la Russie était ancrée dans la conscience française, déjà comme un pays intéressant. Ça n'est plus le pays des barbares, c'est un pays de culture, un pays de chaleur et un pays d'accueil. Alors, Astolphe de Custine, qui est la France révolutionnaire, pour qui c'est un pays qui a brisé sa vie de famille, décide d'aller en Russie. Et c'est anecdotique ce que je dis, mais c'est tout de même important parce que ça explique la suite des choses. Il est parti en Russie convaincu que face à cette France qui avait été abîmée par la Révolution et qui n'a pas été réparée après, enfin pour lui, les souvenirs de la Révolution sont assez puissants, pour que l'image de la France ne lui convienne pas. La Russie, pour lui, c'est le pays rêvé. Alors, le seul ennui, c'est que quand il s'est rendu en Russie, vous savez qu'il avait eu des ennuis. Il avait été tabassé dans les fossés de Vincennes pour une histoire de mœurs. Et pour lui, encore plus, la France était un pays rétrograde où tout écart aux mœurs traditionnelles était impossible. Il se rend en Russie sur le bateau qui l'emmène en Russie. Et ça, c'est très important à comprendre. Cet homme qui va vers le paradis rencontre un grand aristocrate, le prince Kozlovski, qui lui aussi était homosexuel, voilà l'histoire, et qui lui dit, qui lui raconte des histoires épouvantables. Qui dit, vous savez, c'est un pays où on persécute les gens comme nous, etc. Et du coup, je dirais que la passion russe de Custine se double d'une peur panique, et il a, au lieu de regarder avec des yeux ouverts le pays où il se rend, eh ben, il regarde non seulement avec des yeux fermés, mais avec des rideaux fermés. Si vous lisez la Russie en 1839, vous constaterez que Custine a tellement peur de la police, de tout ce qu'on voudra, qu'il passe son temps à tirer les rideaux de sa calèche. Alors pour voir un pays, ce n'est pas exactement la meilleure façon de le faire. Mais si je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez que cette Russie en 1839, c'est une histoire tragique, parce que c'est un livre qui a eu une influence considérable. Oui. Je dirais que c'est le premier best-seller. Oui. De la littérature.
Oui, absolument. Même jusqu'à la période soviétique, ça a été très utilisé.
Absolument.
Oui, tout à fait.
Et c'est un vrai best-seller parce que, justement, les Français étaient toujours obsédés par cette Russie. Ouais. Ça les intéressait. Ça restait loin, on n'y allait pas tellement couramment. Et sort un livre qui a tout de suite un succès extraordinaire, qui est lu par tout le monde, et qui présente de la Russie une image terrifiante. Alors que, si vous voulez, ça aurait dû être le contraire. Et c'est une image tout simplement liée à une peur passionnelle. Enfin, ça, si on connaît l'arrière-plan, on comprend ce qui s'est passé.
Alors, notre heure tourne beaucoup plus vite que nous ne le souhaiterions, il va falloir que nous regardions les relations entre la France à partir du moment où elle se reconstitue, c'est-à-dire effectivement fin du XIXe siècle, après l'introduction par Napoléon III, l'alliance franco-russe qui est là est forte et elle se fait non plus vis-à-vis de l'Angleterre, mais au contraire vis-à-vis de l'Allemagne. Parce que ça va nous conduire, et là il faut que nous gardions quand même un peu de temps pour ça, au livre que vous nous avez donné l'année dernière, c'est-à-dire au démarrage de la nouvelle expérience franco-russe qui s'inscrit dans le passé que vous avez si bien décrit, mais qui est celle de ce que mûrit le général de Gaulle à partir de 42 puis 43 et qui va durer jusqu'à nos jours.
La vérité, c'est que si on saute un petit peu, c'est-à-dire que dans cette atmosphère franco-russe, qui est une atmosphère d'intérêt réciproque, d'amitié réciproque, va se glisser quelque chose qu'à la fois les responsables politiques français n'ont pas vu suffisamment et que le souverain russe qui couvre cette période, c'est-à-dire le moment où l'Empire allemand se constitue, qui est Alexandre II, c'est la montée de l'Empire allemand, l'œuvre de Bismarck qui s'édifie. Alors, Alexandre II n'a pas vu ça. Les Français n'ont pas vu. Bismarck constitue l'Empire allemand. Et un beau jour, au lieu de ces principautés allemandes qui ne pesaient pas, tout l'équilibre européen était fondé sur, non plus sur la conception de Louis XIV, mais sur la conception, je dirais, de Louis XVI, une Europe, car Louis XVI a été très ouvert à la Russie, une Europe ouverte à la Russie. Mais tout d'un coup, cette Europe est faussée par l'arrivée d'un nouveau. L'Angleterre faisait peur, alors les alliances étaient pour ou contre l'Angleterre, mais tout d'un coup, entre la Russie et la France se trouve un pays qui s'appelle l'Allemagne. Voilà. Et ça, et pas les principautés allemandes qui chacune faisaient leurs alliances comme elles voulaient, mais le puissant empire bismarckien qui regarde du côté de la France, qui a des ambitions et qui, après tout, joue un rôle avec la Russie. Il y a dans le contexte de la fin du XIXe siècle, il y a des alliances familiales qui sont quelque chose de très important. Les relations... Les relations franco-russes sous Alexandre III et puis Nicolas II vont se développer dans le sens d'une alliance militaire, parce que la France ressent d'une alliance politique et militaire, la France ressent ce besoin, mais en même temps, il faut bien savoir que les relations familiales, celles entre les Romanov et celles entre l'Empire prussien, font, entre la famille, entre les Hohenzollern, font qu'il y a des liens extrêmement compliqués. Bon, c'est-à-dire que, au fond, le tableau de cette période, c'est une période où la question qui se pose, c'est savoir si cette Russie, qui a été un pays craint, un pays découvert, est un grand allié pour la France ou pas. C'est ça la question. C'est la question que va jouer l'alliance franco-russe, dont le sommet a été le voyage, leur premier grand voyage. Il n'y a pas eu beaucoup de voyages de souverains russes en France. Premier voyage, c'était Pierre le Grand. Alexandre II est venu, mais ça n'a pas été des voyages sensationnels. Nicolas II vient, voilà, en 1894, 1896, juste après être monté sur le trône. Et il y a même chez nous, à l'Institut, un tableau de la visite de Nicolas II et de l'impératrice à l'Académie française. C'est-à-dire que ça marquait vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'alliance franco-russe, c'est fondamental. Les Russes ont véritablement beaucoup sacrifié à cette alliance, c'est incontestable, puisque dans les difficultés, au fond, le choix des Russes, et ça je voudrais le dire aussi, en 1914, l'armée russe se trouvait, la France se trouvait face tout simplement à l'Empire allemand. L'armée russe se trouvait face à deux alliés, aux armées allemandes et aux armées autrichiennes. Et le choix de la Russie était évidemment de commencer par défaire l'Empire austro-hongrois, parce que c'était beaucoup plus simple, que l'armée russe était beaucoup plus en mesure de le faire, et ensuite de se retourner vers l'Empire allemand quand il aurait été déjà un peu, je dirais, affaibli par la guerre avec la France. Le seul ennui, c'est que la France s'est trouvée au début de la guerre dans une situation extrêmement difficile, qu'elle a fait appel à l'alliance russe, et que, évidemment, la Russie a jeté. Il y a eu un changement stratégique. La Russie a jeté toutes ses troupes dans la bataille contre les armées allemandes, d'où les désastres formidables des lacs de Mazurie, le suicide du général Samsonov, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Un général qui se suicide sur le champ de bataille, on n'est pas au Japon, on est en Europe. Tout cela était inattendu, mais ça montre, et c'est très important, ça montre pour l'importance pour les Russes de cette alliance franco-russe. Et ça montre aussi quelque chose, et ça a forgé la pensée du général de Gaulle, l'importance pour la France de cette alliance, de ce pays qui se trouvait de l'autre côté de l'Allemagne, qui est puissant. Et la révolution russe a complètement, après la fin de la guerre... Alors on peut dire, si vous voulez, que la France a compté, ce qui a aussi dégradé la relation franco-russe par la suite, la France comptait sur cette alliance jusqu'au bout du conflit. La révolution russe est arrivée. Comme vous le savez, Lénine est arrivé au pouvoir, non pas sur une vague révolutionnaire, mais sur un mot d'ordre pacifique. Dès le début, dès 1914, Lénine, qui ne voyait aucun espoir de faire la révolution en Russie, parce que la Russie, telle qu'elle était, alors je voudrais tout de même le dire, la Russie entre 1880, c'est entre la mort d'Alexandre, 1881, la mort d'Alexandre II, et 1914, est un pays qui a connu une transformation économique extraordinaire. Alexandre II avait fait des réformes politiques qui modernisaient le pays considérablement aussi, puisqu'il avait aboli le servage, créé un système judiciaire qui était le plus moderne de toute l'Europe, modernisé le système d'éducation. Tout ça faisait de la Russie un pays qui n'était pas, je dirais, dans un état de retard tel qu'on pouvait penser que la révolution était une solution à ce retard. Alexandre III, parce que son père a été assassiné, s'est montré politiquement moins libéral, mais l'œuvre libérale avait été en partie accomplie, mais il a joué la carte de la transformation économique, et on peut dire qu'en 1914, la Russie a évolué, en 1913, on le sait, les fameuses récoltes de 1913, la Russie est un pays extraordinairement transformé économiquement, et qui est en train de réaliser la prophétie de Tocqueville, c'est qu'au XXe siècle, Il y aura deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie. Bon, donc là, Lénine pensait qu'on ne pouvait pas faire la révolution dans ces conditions, si ce n'est que la guerre est arrivée et qu'il a compris qu'il y avait une carte à jouer qui était celle de la défaite. Et que dans la défaite, on pouvait glisser une expérience révolutionnaire. Et évidemment, je dirais que c'est de cette révolution qu'est sorti le traité de Brest-Litovsk, c'est-à-dire la rupture de l'alliance franco-russe, le fait qu'avant la fin du conflit, alors que tous les accords supposaient que personne ne pouvait sortir de la guerre, que la paix séparée était impensable, et en effet, Nicolas II, il y a eu tout de même de grosses tractations pour la paix séparée. Et ça a été une grande tentation dans les milieux monarchistes en Russie de faire une paix séparée à partir de 1916-1917 pour essayer de sauver un système qui commençait à être très affecté par la propagande défaitiste. Nicolas II n'a jamais accepté. On peut dire son honneur, ça n'a peut-être pas été un très grand souverain, son honneur a été la fidélité à l'alliance franco-russe alors qu'on lui répétait que c'était ça qui était peut-être au cœur de l'effondrement de la monarchie. Et en effet, la monarchie est morte là-dessus. Alors curieusement, la relation franco-russe a été à la fois gâchée par ce qu'on pourrait considérer comme la trahison de la Russie en 1917 à Brest-Litovsk, et en même temps, comme il y a un régime communiste qui se crée, je dirais que dans l'imaginaire social français, la révolution, c'était le problème. La notion de progrès est une notion dont on pourrait discuter longuement. Ça a été conçu comme le progrès de l'humanité. Et du même coup, s'il y a, dans l'opinion française, et même dans les élites, personne n'a plus osé discuter la paix séparée, tout simplement parce que cette Russie révolutionnaire, est-ce que c'était pas le pays sur lequel il fallait se calquer ? Voilà, sage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va se retrouver dans une situation étrange 20 ans après, puisque cette fois, c'est pour affirmer d'une certaine façon son autorité que le général de Gaulle va reprendre tout cet héritage pour reconstituer des relations avec la Russie, qui certes avaient été restaurées, mais pas complètement. Il reprend tout ça parce qu'effectivement, il faut s'affirmer à l'égard de l'Amérique et surtout de l'Angleterre.
Oui, alors je voudrais dire d'ailleurs à cet égard, plus on y réfléchit, plus on constate que, au fond, le message du général de Gaulle ou sa réflexion, oui, elle est à la fois très solide pour la période qui a été la sienne, oui, et pour la période que nous vivons, ça a un sens profond. Eh oui. Alors, pour la période qui est la sienne, bon, le général de Gaulle, c'était même un homme d'esprit prospectif, il n'y avait pas de doute. Il avait compris très tôt, tout de même, il a fait la guerre en Pologne, pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Il était hanté par l'isolement de la France face à l'Allemagne et par le fait que tout de même il y avait ce qu'il appelait l'allié de revers. Et l'allié de revers dans son esprit, c'était fondamental. C'était la possibilité d'anéantir ou en tout cas de neutraliser cette Allemagne qui était tellement puissante. Quand la France perd la guerre, quand le maréchal Pétain demande l'armistice, enfin, on ne peut pas dire, enfin, nous avons été vaincus, il n'y a pas de doute là-dessus. Le général de Gaulle a des paroles extraordinaires. D'abord, il dit, nous le savons tous, il dit, nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Bon, ça, c'est un propos. Mais il a un propos beaucoup plus intéressant. Il dit, le 17 juin 1940, hein, quand Hitler arrive
avant,
à Paris.
Avant l'appel du 18.
Absolument. Il dit, l'Allemagne a déjà perdu la guerre. Bon, là, il y a de quoi le prendre pour un doux illuminé. Or, c'est pas un doux illuminé. Il avait compris, lui, et ça, il suffit de se pencher sur ses écrits, il avait compris que l'Allemagne ne pouvait pas... Nous sommes à l'époque du pacte germano-soviétique, c'est ce qui a permis à l'Allemagne véritablement d'envahir toute l'Europe. Et lui a compris déjà que ce pacte était en voie de disparition. Il durait ce qu'il durait, mais il ne pouvait pas durer, et que par conséquent, le moment de la rupture serait le moment où, de toute façon, l'Allemagne serait vaincue. C'est ça qui est extraordinaire chez le général de Gaulle, c'est cette compréhension. Où on le pense, je dirais, pour un fou, et il n'était pas. Alors ça, c'est... Et à partir de là, ça c'est sa première... C'est pas une intuition, je dirais, c'est une analyse. À partir de là, il imagine la suite. Et il pense que la France... remettez-vous dans l'atmosphère 1940. Les Allemands campent à Paris. Hitler est venu faire, je dirais, danser sous l'Arc de Triomphe. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a aucun espoir. L'Angleterre est isolée. Les États-Unis ne sont pas en guerre et ne sont pas pressés. D'ailleurs, dans la première guerre mondiale, ils n'y sont rentrés que quand ça les a arrangés. Et là aussi, ils rentreront quand ça les a arrangés. De Gaulle savait tout ça parce qu'il avait le sens de l'histoire. Alors, ce qu'il comprend très bien, c'est qu'il faut s'appuyer sur quelqu'un. Alors, il y a un mélange entre sa position personnelle, Charles de Gaulle, qui se trouve à Londres, sous la protection de Churchill, qui est tout de même... Il est très gêné. Churchill a importé cette espèce de grand échalas, qui est un physique tout à fait étrange, qui se promène partout en disant « Je suis la France, l'armée française. » Il y a quatre malheureux avec un drapeau français et un micro à Londres. Enfin, tout ça ne tient pas debout. Mais... De Gaulle, d'abord, il a compris qu'il fallait s'appuyer sur quelque chose. Il a compris que l'appui anglais est un appui, oui, mais d'abord, en 1940, il y a un régime à Vichy. Le régime de Vichy est puissant. Il détient les colonies, il détient la flotte. Enfin, véritablement tous. De Gaulle ne représente rien. D'où l'idée qu'il faut... Il faut trouver un allié. L'Angleterre ne suffit pas. L'Angleterre est menacée d'être envahie par Hitler. Et tout de suite, De Gaulle se tourne vers Staline. Enfin, tout de même, ce catholique qui a vraiment de bonnes manières et qui n'aime pas du tout les communistes, se tourne vers Staline et proclame avec beaucoup de sang-froid, lui annonce avec beaucoup de sang-froid, que lui et l'armée française sont à sa disposition pour participer au conflit. Bon, il est clair quand on lit les mémoires des collaborateurs de Staline que tout le monde a trouvé ça tout à fait comique aussi. Mais, peu importe, l'idée est juste. L'idée est juste et pas longtemps après, 22 juin 1941, fin de l'alliance germano-soviétique, les troupes allemandes pénètrent. Mais De Gaulle savait, il disait, ça se terminera très mal cette affaire. Fin de l'alliance germano-soviétique. Et là, je dirais, De Gaulle se trouve dans une situation un petit peu meilleure, parce qu'au fond, il a déjà dit ce qu'il fallait dire. Et de surcroît, alors il a tout de même eu une imagination prodigieuse, parce que, bon, il a appelé tous ceux qui voulaient à le rejoindre. Et avec ça, il forme une embryon d'armée. Enfin, quand on regarde de près ce qui s'est passé, c'était pas grand-chose. Néanmoins, il a tout de suite eu l'idée qu'il fallait envoyer des gens se battre. C'est comme ça que naîtra le régiment Normandie-Nimène, l'escadre Normandie-Nimène, qu'il faut que des gens se battent sur le front de l'Est. C'est-à-dire qu'il faut que c'est la Russie qui est le pivot de la victoire. Et il envoie quelques aviateurs là-bas, pas beaucoup. Mais quel est le seul pays dont des soldats se sont battus sur le front de l'Est, en définitive? Ben, c'est la France. Oui. Le résultat de ça... Bon, premier résultat de ça, on peut raconter ce qu'on veut, Mais nous étions vaincus. Roosevelt détestait la France et la méprisait. Churchill avait peur de Roosevelt, et n'aurait pas été loin dans la défense de la France. Nous nous sommes retrouvés membres permanents du Conseil de sécurité. Et ça, Staline l'a accordé. Au fond, il nous a défendus. Je dirais, après avoir rencontré De Gaulle, avoir entendu De Gaulle, parce qu'il s'est bien dit, au fond, ces gens-là embêtent tout le monde. Bon, il faut lire les rencontres entre De Gaulle et Staline. Mais je vais plus loin, si vous voulez. Ça, c'est ce que De Gaulle a fait. Nous lui devons. Nous devons à son obstination, à cette espèce de... ce qui nous paraît une folie. Mais ce qui était une ligne logique, une vision historique tout à fait pertinente. C'est grâce à ça que nous nous retrouvons en position de vainqueur alors qu'on était... qu'on aurait dû être comme les Italiens, dans les vaincus. Bon, ça ne s'arrête pas là. De Gaulle quitte le pouvoir. Quand il revient, il se trouve dans une situation différente. L'Allemagne, qu'il a toujours considérée comme un danger, n'est plus un danger. D'abord, elle est coupée en deux, tout ce qu'on veut. Et en même temps, il sent bien qu'il y a le communisme. Enfin, il voit la situation mondiale. Mais ce qu'il voit, c'est la moitié de l'Europe soumise à l'Union soviétique. Et je voudrais dire tout de suite qu'on a souvent dit que De Gaulle, quand il avait rencontré Staline en 1944 à Moscou, lui avait concédé ce que Staline lui demandait, c'est-à-dire ce que Staline lui demandait, d'être le premier pays européen à reconnaître la mainmise de Staline sur la Pologne, c'est-à-dire sur toute l'Europe de l'Est. Alors, quand on réfléchit aux choses, de Gaulle à Moscou, il voit quoi ? Il voit que les troupes de Staline vont vers Berlin, que de toute façon, ils occupent déjà l'Europe de l'Est. Ça ne sert à rien de discutailler avec ça. Et que personne ne s'oppose à eux. Qu'est-ce qu'il allait dire à Staline ? D'ailleurs, il n'a pas accordé une reconnaissance à l'histoire polonaise. Il a louvoyé avec beaucoup d'intelligence. Mais on peut dire qu'il ne lui a pas cédé, c'est ça que je veux dire. Mais en échange, ce qu'il a obtenu, c'est que Staline dise l'hiver 44, les communistes sont en voie de pouvoir prendre le pouvoir en France, il ne faut pas l'oublier. La France est tout de même dans un état de chaos total. Elle est libérée, mais essentiellement, ce sont les communistes qui tiennent, je dirais, une grande partie de la province française. Ce qu'il obtient de Staline, c'est que Staline va ordonner aux communistes de se tenir tranquilles et de ne pas avancer vers le pouvoir russe. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il obtient l'indépendance de la France. Je vous rappelle qu'en l'hiver 44, personne ne savait jusqu'où irait Staline. Et on se demandait s'il n'irait pas véritablement jusqu'à Brest, tout à fait tranquillement. Personne ne pouvait l'empêcher. Après, quand il revient au pouvoir, de Gaulle se trouve dans une situation tout à fait étonnante parce que l'Allemagne n'est plus une menace pour la France. Et en même temps, il voit, et c'est la réconciliation avec l'Allemagne, tout de même dont il a été un acteur. Mais là où son intuition est remarquable, et je me permets d'y insister, j'ai l'air d'être une gaulliste frénétique, c'est pas du tout ce que j'ai été, mais je dois dire que, à étudier profondément cette affaire, je suis absolument bouleversé de voir à quel point le général de Gaulle a compris les situations. Quand il voit en 1966-67, dans cette Europe qui reste toujours divisée, elle a essayé de se soulever. Il y a eu les soulèvements de 1956 en Pologne et en Hongrie. On a laissé écraser les Hongrois, personne, ni les Américains, ni personne n'a bougé. 1967, tout bouge. La Tchécoslovaquie s'agite, les Tchèques, les intellectuels s'agitent. Là, la Pologne est à nouveau, je dirais, en ébullition. Mais ces pays savent qu'il ne faut pas aller trop loin. Ils savent pas très bien. Et de Gaulle s'est interrogé à ce moment-là sur une question qui ne se pose à personne. Parce que je voudrais le rappeler que, regardez en arrière, personne n'imaginait que le pouvoir soviétique pourrait un jour s'effondrer. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait y avoir une fin à cette division de l'Europe. Ce qu'on imaginait, c'est qu'on allait continuer comme ça, en oubliant tranquillement qu'il y avait des peuples qui étaient sous la botte de l'État soviétique. Et le général de Gaulle retrouve à ce moment-là, je dirais, cette volonté de compromis qu'il a eue dans les années 44. C'est-à-dire qu'il comprend que la France, pas n'importe qui, la France a un jeu à jouer dans cette affaire. Je vous rappelle aussi qu'en 1967, la France n'est pas très puissante dans le monde. Nous sommes une puissance, mais pas une très grande puissance. Nous avons été confrontés à nos affaires coloniales. Nous sommes tout de même... c'est le monde américain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et de Gaulle entend jouer une carte française. Et cette carte française, c'est la carte, je dirais, d'une relation de la France agent intermédiaire entre l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est une carte fondamentale. C'est ce qu'il a joué, je dirais, entre 1965 et 67, en courant dans tous les pays de l'Europe de l'Est, tout simplement pour dire, on peut construire un autre... D'abord, la réconciliation avec l'Allemagne, avec le traité de l'Élysée, puis la réconciliation peut se faire. Ça n'était pas un homme, je dirais, qui s'inclinait devant les Soviétiques. À chaque crise de Berlin, c'est de Gaulle qui a mobiliser les Américains et les Anglais qui ne voulaient pas se disputer avec les responsables soviétiques, c'est lui qui leur a dit « il faut dire non ». Mais en même temps, il pense qu'il faut que le dialogue, que la France a une capacité de dialogue intellectuel d'abord avec les pays de l'Europe de l'Est, et il va dans les pays de l'Europe de l'Est. Et en 1966, dans son voyage historique en Union soviétique, il va très loin. Parce qu'au fond, il fait reconnaître par les soviétiques dans un document, on dit les documents n'ont aucun intérêt, si ça a de l'intérêt, que les relations entre les États sont fondées sur la pleine souveraineté de chacun des États. Bon, c'est, vous me direz que ça n'a pas d'importance parce que les soviétiques s'asseyaient sur tout. Néanmoins, quand c'est écrit, le général de Gaulle est convaincu que ça a de l'importance. Et il va porter ça en Pologne, il va porter ça en Roumanie, il leur montre ça. Et il leur dit, vous voyez, et il fonde un système qui est un système tout simplement de relations établies avec les pays communistes, avec un maximum d'échanges. Il va convaincre l'Allemagne. Les deux Allemagnes ne se parlent pas. C'est lui qui convainc ses collègues de l'Allemagne occidentale qu'il faut parler avec l'autre Allemagne. Et c'est lui qui a réussi à rétablir le dialogue par son exemple et par sa prédication. C'est lui qui va conseiller aux États-Unis tout de même d'abord de reconnaître la Chine communiste quand il faudra. Oui, et il a été le premier qui a offert ce modèle. Et c'est lui qui suggère au président, c'est le président Kennedy, qu'il faut tout de même parler avec les pays de l'Est. Bon, c'est-à-dire qu'il a élaboré un modèle qui est le modèle de la coexistence pacifique. Alors bon, tout ça, on l'attribue à des penseurs très savants. Tout ça, on l'attribue après à la conférence d'Helsinki. Mais avant cela, il y a eu l'action patiente de ce général de Gaulle qui, exactement avec cette espèce d'obstination et d'apparent irréalisme qu'il avait manifesté dans les années de guerre, poursuit-il une petite toile d'araignée. Il a eu du courage parce qu'il s'est trouvé en opposition avec la plupart de ses collaborateurs. Il suffit de lire les mémoires de diplomates. Le Quai d'Orsay, en gros, très savant, les plus grands diplomates étaient vent debout. Ils appelaient les conciliations du général de Gaulle. Mais quand il y a eu la conférence d'Helsinki, personne n'a rien dit. Or, c'était d'une certaine façon l'aboutissement de ce qu'il avait inventé. Donc, je dirais qu'il y a eu chez lui un réalisme extraordinaire. C'est-à-dire que le jour où il a pensé que le danger allemand n'existait plus, mais que le danger allemand avait été remplacé par un autre, et que la seule solution pour la France, qui se trouvait tout de même dans une position intermédiaire de puissance seconde, la seule solution, c'était de jouer les intermédiaires. C'était de trouver des solutions qui permettaient pacifiquement de mettre fin à des situations conflictuelles. Bon, de tout cela, on ne le crédite pas. Alors, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que je pense que son raisonnement s'étend à autre chose aujourd'hui. Il a pensé que comment faire pour que les pays de l'Est européen puissent être libérés, c'est d'abord parler avec l'URSS. C'était tout de même l'interlocuteur qui détenait les clés de la transformation du monde. D'où ce que certains de ses collaborateurs, et l'autre jour on a enterré un très grand ambassadeur, l'ambassadeur Franz Meurice, qui a été ambassadeur à Moscou au moment de l'affaire d'Afghanistan. L'ambassadeur Franz Meurice souvent me disait « Non, non, mais là de Gaulle a vraiment été trop conciliant. » Bon, c'était la position du Quai d'Orsay. Et qui est reproché au jeu. Mais le général de Gaulle a considéré que si l'amitié franco-russe ne permettait pas de transformer le paysage européen, alors la France n'avait plus de rôle à jouer en Europe. Que ce qui était la condition, je dirais, d'une existence internationale de la France, d'une existence internationale d'une France indépendante de l'action américaine, c'était précisément de trouver un grand allié. Ce qu'il avait fait dans la Seconde Guerre mondiale et l'appui qu'il a pris. Je crois que ce qu'on peut transposer ça à la situation actuelle.
Chère Hélène Carrère-Nancos, vraiment, je vous fais tous mes compliments parce que vous nous avez reconstitué 3 siècles de relations franco-russes de manière absolument exceptionnelle. Merci.